Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous précise tout de suite que cette séance est enregistrée et donc sera filmée et éventuellement, enfin pas éventuellement, certainement diffusée ensuite. Voilà, je voulais vous informer de cette chose. Vou começar falando português. Desculpe pela pronúncia e pelo sotaque. Vou falar mais português do que português. Bom, vou começar falando português, mas depois vou passar pelo francês. Bom dia a todos e sejam todos bem-vindos aqui em Tours. É uma grande alegria para nós receber todos. Obrigado a todos e agradeço a participação dos colegas lusofonos como dos colegas francofonos. Vamos abrir agora esse colóquio e não vou falar mais. Vou passar, sem esperar, vou passar a palavra às pessoas que estão aqui. E para começar, vou passar a palavra a Emmanuel Néron, é o diretor dessa escola da Universidade de Tours. Emmanuel.
Merci Jean-Paul. Je suis désolé, je ne parle pas aussi bien portugais que Jean-Paul, donc je vais m'exprimer en français. Je vais d'abord vous remercier et remercier les organisateurs de ce colloque pour l'invitation. Je suis très heureux d'accueillir l'ensemble des participants et puis les gens qui sont autour de la table à l'ouverture de ce colloque. Je vais vous dire quelques mots de l'endroit dans lequel vous êtes, quelques mots de l'École Polytechnique de l'Université de Tours. Rassurez-vous, je ne vais pas être très long, puis je passerai la parole à mes collègues. Donc, Polytech Tours est une école d'ingénieurs interne à l'Université de Tours. Alors, je précise ça, ça peut être assez étonnant pour les collègues étrangers, puisque c'est le modèle internationalement reconnu, mais il se trouve qu'en France, on ne fait jamais rien comme les autres, et il se trouve qu'en France, le fait que l'école soit interne à l'université est une spécificité, donc je me permets de le noter. Une école qui compte à peu près 1400 élèves ingénieurs, et qui fait partie d'un réseau d'écoles d'ingénieurs de 14 écoles en France, qui, par le nombre, est aujourd'hui le plus grand réseau d'écoles d'ingénieurs de France. Les spécificités des écoles internes aux universités, de Polytech Tours en particulier, c'est deux éléments structurants de notre activité. C'est évidemment les relations internationales. Et ce n'est pas anodin le fait que le colloque s'adresse à des collègues internationaux. Nos élèves ingénieurs, pour être diplômés, ont la nécessité d'avoir une expérience à l'international qu'ils peuvent effectuer soit sous la forme d'un stage, soit sous la forme d'un semestre académique. Et je remercie certains des collègues qui accueillent nos étudiants en semestre d'échange Erasmus, en particulier à Porto. Je sais qu'il y a des collègues de l'Université de Porto, mais un peu partout, pour la qualité des échanges. Pour que vous ayez un ordre d'idée, ça représente à peu près 300 mobilités internationales à l'année. Le deuxième axe qui structure notre activité en tant qu'école d'ingénieurs internes aux universités, et c'est en partie la raison pour laquelle le colloque est organisé ici, c'est la forte articulation de nos formations avec la recherche. Les enseignants-chercheurs de l'école polytechnique sont tous très actifs dans des laboratoires, laboratoires de mécanique, laboratoires d'informatique, laboratoires de microélectronique, et évidemment le laboratoire CITER, dont Nora vous parlera sûrement juste après. Alors, au sein de cette école d'ingénieurs, et là pour le coup c'est une vraie spécificité française, nous avons une spécialité en aménagement et environnement. C'est une originalité, c'est la seule spécialité française qui porte cette dénomination au sein d'une école d'ingénieurs. Et la reconnaissance de ce domaine d'activité comme spécificité à part entière des métiers d'ingénierie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est plusieurs autour de la table à avoir travaillé à cette reconnaissance. Et c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Donc la spécialité aménagement environnement forme environ 90 ingénieurs par an qui ont tous le titre d'ingénieur et qui travaillent dans des organismes publics, parapublics ou dans des bureaux d'études ou autres sociétés. Cette spécialité est composée de deux filières et vous allez voir que ça fait fortement écho au thème du colloque puisque la première filière c'est urbanisme et ingénierie territoriale. Et la deuxième filière, c'est l'ingénierie des milieux aquatiques. Et vous voyez qu'évidemment, ça se passe très en relation avec la thématique du colloque. Juste un tout petit mot, c'est que cette spécialité, avec le travail acharné des collègues, on a réussi à la faire reconnaître par notre agence d'accréditation. En France, ça s'appelle la Commission d'éthique d'ingénieurs. Et notre agence d'accréditation a, avec tout le travail qui a été fourni, et je le souligne parce que c'est pas simple, a reconnu que cette formation avait la qualité nécessaire pour obtenir l'accréditation maximale. Et c'est aussi la reconnaissance que les sciences de l'aménagement et les sciences de l'environnement sont un pan de l'ingénierie. Et puis le dernier point que je voulais souligner, c'est aussi grâce à certains d'entre vous que ce dispositif existe. Le département aménagement environnement héberge un master international qui a été reproposé dans le nouvel offre de formation de l'université, qui a un peu changé de nom et qui va changer de formule de manière assez importante. Et c'est un master fortement ouvert vers l'international, avec des partenaires très fortement impliqués, l'Université de Porto, l'Université d'Hanovre, j'en oublie, Christophe fait par là, ouais, Wrocław en Pologne. Donc je tenais à ce que vous ayez ce panorama un peu global de ce qu'est Polytech Tours aujourd'hui, une école dans son université, une école fortement articulée avec la recherche, et vous en êtes la preuve vivante, et une école fortement articulée autour des relations internationales. Je vous remercie pour votre attention sur ces quelques phrases. J'espère ne pas avoir été trop long.
Merci Emmanuel. Je vais donc passer la parole à Jean-Patrick Gilles, conseiller régional. Je dois dire que la région nous a beaucoup soutenus pour l'organisation de ce colloque. Et donc, je souhaitais qu'effectivement elle puisse être représentée intuitivement, si je puis dire. Donc, Jean-Patrick Gilles va s'exprimer au nom de la région. Peut-être aussi peut-il s'exprimer en tant que Tourangeau, bien sûr, entendu, hein, et élu Tourangeau. Donc voilà.
Merci, merci monsieur le directeur. Bonjour à tous et donc bienvenue en région Centre-Val de Loire et en Touraine. Oui, puisque monsieur le directeur a présenté l'école, ben moi je vais présenter plutôt la région et puis essayer d'arriver sur le sujet qui est le vôtre. Et je crois que le lieu où on y est, où on est, s'y prête. J'excuse donc et je représente le président Bonneau qui ne pouvait pas être avec vous ce matin, et je représente donc la région, et j'y reviendrai, qui soutient le colloque comme elle en soutient d'autres. Je dirai quelques mots. Région Centre-Val de Loire, même si vous venez de loin, on espère que vous avez repéré que c'était la Loire. On est très fiers puisqu'elle est au patrimoine mondial de l'humanité et qu'elle y est non pas tant pour les châteaux, comme on peut penser, mais pour le patrimoine immatériel, justement, pareil, notre art de vivre, enfin ce qu'on représente, et puis donc bienvenue aussi en Touraine. Alors vous savez, la ville de Tours, un ancien maire de Tours, mais qui était connu, qui s'appelait Jean Royer, il parlait toujours de la Mésopotamie pour évoquer le lieu où nous sommes, puisque vous avez vu que la ville s'est construite entre deux fleuves, enfin il n'y a qu'un fleuve, la Loire, et puis ici on est plutôt sur le Cher, et voilà, il y voyait un signe de développement et de civilisation, et ça a été reconnu finalement même par au titre du patrimoine mondial, si on peut le prendre comme ça. Mais ce que je voulais pointer, c'est que puisque votre sujet c'est nature et ville, et si j'ai un petit peu compris, c'est en quoi la nature peut être à la fois un atout et une menace pour la ville, pour le développement urbain. Eh bien ici c'est un lieu qui symbolise ça, puisque vous pensez que vous êtes sur une petite île sympa dans un bras du Cher ou au milieu du Cher, quelque chose de millénaire. Eh bien pas du tout, hein, vous êtes s'est installé sur un lieu complètement, en grande partie, artificiel. Hein, autant la Loire est un fleuve, est le dernier fleuve sauvage d'Europe, et n'est pas navigable, est un fleuve compliqué, autant le Cher est une rivière qui a été domestiquée. Et l'idée de ce fameux maire, à l'époque, j'en parle avec respect, même si je l'ai, on peut dire, beaucoup combattu, était de domestiquer totalement le Cher et de construire plein de barrages en amont, et puis d'avoir, vous avez vu, il y a tout un environnement très urbain, un petit peu à l'est, d'avoir qu'on voit là d'ailleurs, hein, qui est juste à côté. Et alors lui, il voulait totalement maîtriser, et pour faire ce quartier-là, il y a eu des travaux énorme, hein, quand on voit, moi je n'ai pas connu, mais quand on voit les films, on a l'impression d'être en Chine, quoi. Hein, on a, et puis alors lui, c'était sa marque de vente, hein, on le voit posant sur les grosses machines en train de dompter le fleuve, c'était ça son truc. On allait dompter la nature, dompter le fleuve, et donc, eh bien, avec tous les remblais qu'il y a eu pour construire ce quartier-là, eh bien, ils ont été mis ici. Et puis, on a construit ce quartier qui est, je vous dis, hein, vous arrivez, vous trouvez ça verdoyant et sympathique, bien, on n'est que sur des déchets et que sur du remblai. Voilà, ça plombe un peu l'ambiance tout de suite. Mais c'est une réalité qui n'apparaît pas et qui est vraiment dans le sujet, parce qu'ils voulaient continuer cette domestication. Et donc, il y a eu des débats nationaux, hein, sur est-ce qu'il fallait faire les barrages en amont, etc. Et puis non. Ce qui explique que vous avez le quartier urbain, le quartier ici, qui est un peu un mixte, qui a été au début un quartier universitaire, parce qu'il fallait bien en faire quelque chose. Et puis après, on a mixé, à vous de visiter pour voir si c'est une réussite. Et puis après, un quartier purement qu'on appelle la Gloriette, qui est la zone d'expansion des crues. Alors, je vous rassure, parce que là, vous allez vous dire, avec tout ce qu'il a plu, etc., qu'est-ce qui va nous arriver ? Alors, si vous regardez le PPRI, c'est le paradoxe de la situation. Ici, vous êtes dans le seul endroit de Tours qui n'est pas inondable. Bon, j'en suis pas sûr. Mais dans le PPRI, c'est écrit comme ça. Ici, c'est l'endroit hors d'eau. Tout le reste de l'agglomération est en gros inondable. Donc là, vous êtes dans le hors d'eau. Hein, et puis derrière, vous avez au contraire la zone d'expansion des crues. Alors là, vous dites, oui, les crues, on doit être tranquille. Non, non, non. Les crues les plus importantes ont toujours eu lieu en juillet. Hein, les crues vraiment dévastatrices ont eu lieu en juillet. Et parce que c'est quand il y a les crues simultanées du Cher et la Loire. S'il y a qu'un des deux, on s'en sort. S'il y a les deux, on ne s'en sort pas, à part ici. Donc, à part ici, où vous êtes hors d'eau. Donc, je voulais pointer ça parce que c'est un des sujets importants dans l'histoire de la ville et le développement de maintenant une métropole. Et d'ailleurs, pour vous repérer, vous êtes au cœur de la métropole. Hein. C'est, géographiquement, c'est plutôt l'endroit, le cœur. Alors, il y a eu des évolutions parce que, comme je l'ai dit, on s'est un peu opposé à l'époque à Jean Royer. Donc nous, on défendait l'inverse. Moi, j'avais plutôt pronostiqué. À l'époque, ça semblait un peu uluberlu, mais l'idée de dire il faut maintenir une coulée verte au cœur de ce qu'était la ville et au cœur de ce qu'est l'agglomération. Et je pense que c'est plutôt réussi. Mais si vous voulez, c'est une forme de paradoxe. Et je pensais que ça pouvait illustrer votre colloque comme réflexion. Et vous êtes au cœur, puisque celui qui arrive, et j'imagine que c'est votre cas, a l'impression qu'il est là au cœur du poumon vert de l'agglomération, le lieu naturel protégé, etc. C'est vrai que c'est une coulée verte, mais elle est en grande partie plus artificielle que peut-être les bords de Loire qui sont endigués, mais qui sont d'un certain point de vue plus naturels. Voilà, je voulais me permettre de pointer ça. Deuxième chose que je voulais dire, et j'en aurais terminé, je l'ai dit un peu au début, c'est l'intérêt de la région, évidemment, pour vos travaux, mais aussi l'intérêt de la région et son soutien, je crois, qui ne se dément jamais, pour l'université, ce qui nous amène à soutenir divers colloques au cours de l'année, et on le fait bien volontiers. Là, encore une fois, on ne pouvait pas ne pas le faire, je veux dire, vous êtes au cœur de la vallée de la Loire, là, la cité des châteaux, évidemment, mais des jardins. Hein, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est la question des jardins. Alors je crois que là aussi, vous allez lier les deux. Si j'ai une petite indiscrétion, je peux comprendre que vous alliez à Villandry demain voir M. Carvalho, et puis à la fois jardin et château. Mais je voulais indiquer aux universitaires, et plus particulièrement à ceux de la région qui sont présents, qu'on essaierait bien aussi de pousser l'avantage et d'aller un petit peu plus loin. Et pourquoi pas, alors c'est un scoop que je vous livre, mais je vous en reparlerai, on a d'autres contacts, la région, mais d'autres contacts pour essayer de créer peut-être quelque chose autour des rendez-vous de la science ou quelque chose comme ça, avoir un temps fort chaque année voilà, qui permettrait de mettre en évidence des travaux qui sont faits ici et puis d'avoir un week-end, une semaine de réflexion et comme vous, basé sur l'interdisciplinarité, voilà, faire... ici, l'université est éclatée dans la ville. Ben, finalement, parfois, ça permet peut-être plus de sortir des cloisonnements, et bien de faire des travaux comme ça, s'adressant aussi au grand public, hein, parce que on est dans un monde où c'est pas facile de connaître ce qui se fait derrière les derrière les murs. Alors nous, on est content de financer les murs régulièrement, mais on trouve qu'il y aurait une sorte de petit retour exotérique, bien, ça serait tout à fait sympathique. Donc j'envoie ce message. Sachez qu'on est un petit groupe à réfléchir, avec notamment Philippe Vindrix, mais comment on pourrait créer. Au début, je me disais, il faudrait créer un lieu, à Gramont, à la Fac de Sciences, un lieu de la culture technologique, scientifique et technologique. Finalement, c'est peut-être compliqué, un lieu. Il faut peut-être plutôt travailler à construire un temps fort où ça vous permettrait de rendre compte de vos travaux. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bienvenue en Touraine. J'ai vu que vous avez un programme très chargé, mais que vous pourrez continuer sur le week-end où vous verrez, il y a énormément de choses, et notamment autour de la musique, par exemple, puisque ce sont les je le dis parce que c'est connu, ce sont les fêtes musicales à Mélay. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui vont rester, j'espère qu'il y en a, à bien profiter. Je pense que le temps s'est remis au beau, hein, la mousson est terminée, et donc on va pouvoir passer une excellente semaine laborieuse et un bon week-end en Touraine. Merci à tous, bon courage et bon travail.
Merci pour cette excellente entrée en matière. Je crois qu'on est déjà entré dans nos travaux avec cette intervention. Je vais demander maintenant à Nora Semoud de parler au nom du laboratoire
CITER,
qui est
l'organisateur. Tant pis, je vais essayer de parler Alors, bonjour à tous. Je ne vais pas vous présenter l'UMR CITER, donc Cité, Territoire, Environnement et Société, puisque les collègues organisateurs de ce colloque auront tout le loisir de vous parler de cette grosse machine qui regroupe aujourd'hui près de 200 personnes avec les doctorants. Je voudrais, pour ce colloque, au contraire, évidemment, vous souhaiter la bienvenue. D'abord, féliciter la tenue de ce colloque, qui porte évidemment sur une thématique importante pour l'UMR, puisqu'elle est bien inscrite dans les domaines de recherche, j'allais dire, prioritaires pour l'UMR. Une thématique, évidemment, aujourd'hui, qui est porteuse de débats avec des significations multiples, voire des controverses. Et évidemment, vos travaux vont, d'où l'importance donc des travaux que vous allez mener dans ce colloque, auquel, bien sûr, je souhaite plein succès. Voilà, merci.
Merci Nora. Maintenant, je vais passer la parole à Thomas Moreira, qui représente ici l'ANPUR, l'Association Nationale de Planificat Urbano et Régional. Le colloque, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, est porté par deux associations nationales d'urbanisme, d'urbanistes. D'une part, l'ANPUR, que représente Thomas Moreira ici, et d'autre part, l'Apéro International, qui est francophone, qui est représenté ici par Mario Carrier, qui nous vient de Québec, de la ville de Québec. L'un et l'autre vont s'exprimer pour nous dire, de leur point de vue, du point de vue de leur organisation, ce que représente ce colloque. Thomas, qu'est-ce que vous pouvez parler en portugais, comme vous quiser.
Bom dia a todos, bonjour à tous. Como representante brésilien, je vais essayer de parler dans les langues. Donc, como representante brasileiro, vou falar nas duas línguas. Então, primeiramente em português, premièrement en portugais. Então, em nome da Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional, eu apresento bom dia a todos. Então, au nom da Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional do Brasil, je vous dis bonjour à tous. C'est très important d'être présent et représenter l'Association nationale dans cette colloque Nature et Ville, Regard Croisé franco-brésilien. C'est très important pour nous, en tant qu'Association nationale, de faire partie, mais une fois, du colloque France-Brasil, avec le titre Natureza et Cidade, Olhares Cruzados sobre a France-Brasil. ANPUR est une association qui regroupe plus de 70 programmes de pós-graduation au Brésil, dans les domaines d'urbanisme, économie, sociologie, aménagement urbain, architecture, géographie. Donc, Association nationale de planejamento urbano é um programa com mais de 70 programas, representa 70 programas de pós-graduação na área de economia, arquitetura, urbanismo, geografia, história, entre outros. Né? A Perrault e a Ampour, dès le début, sont fiers d'être ensemble, justement, dans la promotion de ces rencontres, né, qui a commencé très fortement dans la perspective de construire des échanges entre les différents pays, des langues françaises et lusophones, au début surtout entre la France et le Brésil. Aujourd'hui, c'est plus encore important puisque les deux associations font partie du GIPIN. Hein, je suis certainement que Tours est une des villes qui a présenté pour recevoir les GIPIN dans 2 ans, si je me souviens, dans 2-3 ans. Donc j'espère bien que Tours sera la ville choisie pour recevoir les GIPIN. Então, a Ampour e a Perrault. A Perrault, desde o início, fazem um trabalho conjunto e se fortaleceram na construção desses diálogos França-Brasil, né, que ampliaram as discussões para toda uma discussão franco-brasileira. Hoje, a Ampour e a Perrault fazem parte do GIPIN. Né, Tours é uma das cidades que se propôs a receber o próximo GIPIN, dentro de 2 anos, se eu não estou equivocado, né, espero que seja a cidade de recepção, né, para o próximo GIPIN, onde terá certamente o apoio da Ampour e da Perrault. Então, je crois que ces colloques représentent la consolidation des échanges franco-lusophones. Il est très important pour notre association appuyer ce genre de rencontres pour fortifier les échanges de chercheurs, recherches, e sobretudo a reflexão ensemble sobre a questão urbana. Então, para a gente, é super importante a representação da consolidação dos encontros franco-brasileiros. É muito importante que a associação apoie diferentes tipos de reflexões internacionais, com intercâmbios de pesquisadores, pesquisas e de novas reflexões. Bom journée a tous, bom trabalho, bom trabalho a todos.
Bonjour. Bonjour. Alors, il me fait plaisir de représenter l'Apéro International à ce colloque. Je voulais vous dire quelques mots sur ce que signifie l'Apéro. Alors, c'est un acronyme, bien sûr, pour signifier l'Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme. Alors, c'est une association francophone internationale créée en 1984, essentiellement par des programmes d'aménagement et d'urbanisme en France. Dans les années 90, l'Apéro s'est donné une nouvelle charte qui lui a permis d'être reconnue par l'Agence universitaire de la francophonie. L'Apéro constitue un des 11 réseaux scientifiques de l'AUF et un de ses plus actifs, à ce que je sache. Alors, les objectifs de l'Apéro étaient d'abord de définir et d'appliquer les principes d'une charte de qualité dans les formations et diplômes en aménagement et urbanisme de ses membres. Par la suite, dans les années 70, avec la reconnaissance par l'AUF, l'Apéro s'est internationalisé, si on peut dire, en ayant l'adhésion de nouveaux membres dans les régions d'Afrique et Moyen-Orient et dans la région des Amériques. Dans ce dernier cas, les nouveaux membres se situant essentiellement dans la province de Québec au Canada. Actuellement, l'Apéro compte une trentaine, quelques de membres actifs et 5 ou 6 membres associés. Alors, on entend par membres, bien sûr, des départements ou des centres de recherche, mais essentiellement des départements qui ont des programmes en aménagement et en urbanisme. L'Apéro compte aussi quelques dizaines, je crois, de membres individuels. L'APERO international prône également la recherche scientifique dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme sous toutes ses formes. Alors, que ce soit au niveau international ou au niveau des différentes sections comme l'Afrique, Moyen-Orient ou les Amériques ou France-Europe, il y a une multiplicité de multiples activités reliées à l'enseignement et à la recherche qui s'organisent à chaque année. Tout ça culmine habituellement par les journées APERO qui se tiennent annuellement dans une ville et un continent différent à chaque année. Alors, par exemple, la semaine prochaine, nous aurons les journées APERO dans la ville de Lille. Je voudrais souligner également que le département aménagement environnement de l'Université de Tours est un des membres les plus actifs au sein de l'APERO international, toujours prêt avec ses collègues à organiser des colloques, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et je crois que le colloque qui débute ce matin en est une preuve. Alors, je voudrais remercier au nom de l'APERO international l'engagement du DAE dans les événements de diffusion scientifique. Enfin, je voudrais souligner que l'actuel président de l'APERO international est le collègue Franck Scherer, qui a longtemps enseigné dans le programme d'aménagement et d'urbanisme à l'Université de Lyon et qui, depuis 2010, assure la direction de l'Institut d'urbanisme et d'architecture du paysage à l'Université de Montréal au Québec. Il est président de l'APERO international depuis le mois de mai 2014. Alors voilà, c'est les principaux points que je voulais souligner. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon colloque.
Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci, chers collègues, chers directeurs, cher Jean-Patrick, pour les interventions. Alors, juste quelques mots sur ce programme qui est associé et qui rentre pleinement dans la philosophie aussi de ce que vous entreprenez autour de cette question de nature et de ville. Le programme, je le rappelle, est donc Intelligence des patrimoines. Il porte sur à la fois les patrimoines culturels, mais aussi sur les patrimoines naturels. Et à partir de ce questionnement sur le processus de patrimonialisation et donc le processus de conservation. Programme, je le précise, soutenu, fortement soutenu par la région qui ne fait pas que payer les murs, mais qui aussi soutient non seulement les colloques, mais également des dynamiques interdisciplinaires. Et c'est bien l'objectif de ce programme. L'interdisciplinarité, comme pour ce colloque aujourd'hui, de faire intervenir tous les secteurs scientifiques sur cette question de la conservation qui rejoint la conservation culturelle, mais aussi tous les aspects de conservation environnementale. Donc l'environnement est au cœur de la biodiversité, est au cœur aussi de nos préoccupations en collectif. Je précise que cette fédération, c'est une fédération, donc encore une fois programme régional, ambition recherche développement, fédération de laboratoires. C'est 34 laboratoires, l'UMR CITER en fait pleinement partie, le LIFAT, le laboratoire d'informatique de Tours, intégré à l'école Polytech Tours également. Et donc c'est en collectif que nous traitons ces sujets. Alors si je prends le colloque, il s'intègre pleinement dans plusieurs chantiers où à chaque fois il y a environ entre 70 et 100 chercheurs qui sont impliqués, toutes disciplines confondues. À la fois le chantier, le principal chantier, c'est monuments, parcs et jardins. Urbain, on a à la demande d'ailleurs des collègues de l'UMR CITER rajouté cette dimension urbaine. Également un autre chantier, Loire et fleuve. Qui est porté par un collègue de l'UMR CITER, Stéphane Rodriguez, spécialiste de la Loire, et également des chantiers émergents, un chantier sur la ville durable, qui aujourd'hui se concentre à partir de surtout sur un projet qui est porté par les géosciences, cette fois en lien aussi avec l'UMR CITER, je regarde Divia qui en fait partie, donc qui porte sur Pondichéry, Waterpondy, et donc sur la gestion de l'eau à Pondichéry. Et également un autre chantier émergent qui, pour l'instant, est beaucoup sur le patrimoine culturel, mais qui pourrait très, très largement porter sur le patrimoine aussi naturel, avec des travaux qui ont été engagés, c'est tout simplement la ville de Tours. On a décidé, au croisement de plusieurs activités et plusieurs laboratoires, d'intégrer aussi ce chantier dit émergent, mais encore une fois portant et s'appuyant sur de très, très nombreux travaux qui ont eu lieu depuis de nombreuses décennies. Donc, colloque qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique en termes d'interdisciplinarité, on vient de l'entendre aussi en termes d'internationalisation et de partenariat, en termes d'intersectorialité dans les acteurs, et c'est vraiment ce que veut le programme, à la demande aussi de la feuille de route de la région, c'est que nous sortions de nos laboratoires. Nous y allions ensemble, mais nous sortions de nos laboratoires pour nous poser des questions qui sont des questions en lien avec ce qu'on appelle les défis de société. Alors pour des géographes, aménageurs, vous êtes les sciences sociales, c'est toujours des défis de société, mais elles se posent aussi pour les sciences humaines, elles se posent aussi pour les sciences des matériaux, elles se posent pour les sciences du vivant, ou encore plus peut-être pour les sciences du numérique. Donc sur cette thématique centrale, de pouvoir travailler avec ceux qui font de la science en dehors de l'université, il y en a, et ceux qui sont en attente de nos expertises, et je pense notamment aux collectivités territoriales. Donc l'initiative effectivement des rendez-vous de la science, c'est pas simplement la diffusion des savoirs, c'est aussi de répondre à des questions qui sont des questions qui se posent à partir de nos expertises croisées. Dernier point, et cette fois je le dis plutôt en direction des collègues de l'Université de Tours et peut-être aussi en écho, je l'espère, à l'Université d'Orléans qui est associée à ce programme. Nous allons bientôt avoir collectivement un challenge, un défi à relever par rapport à ces différents défis de société justement, qui est un appel du plan d'investissement d'avenir. École universitaire de recherche qui va être déposée pour la vague 2. Vous savez, certains d'entre vous ont été fortement associés à la vague 1 où nous avons eu une excellente expertise qui nous a mis tout en haut de la sélection. Nous n'avons pas été retenus. 27 sur 120 dossiers ont été retenus dans des grosses métropoles, dans des gros centres également de recherche à Paris, à Lyon, à Lille. Nous étions juste derrière. Donc voilà, je lance déjà un appel. L'appel aura lieu certainement dans le courant juillet pour recandidater. Cette école universitaire de recherche, on l'a fait porter sur les patrimoines parce que c'est un des axes forts définis par la région autour de l'art de vivre, mais également autour du tourisme de nature et de culture. C'est un axe fort parce que nous sommes aujourd'hui 360 à être impliqué dans cette aventure collective de l'Université de Tours et d'Orléans, et également parce que c'était aussi positionné dans les stratégies, stratégie nationale de la recherche, stratégie européenne, et récemment aussi le CNRS et son nouveau directeur général, Antoine Petit, qui expliquait aux différents directeurs de laboratoire du côté des différents instituts qu'une des politiques du CNRS, ça serait de créer des dynamiques interlaboratoires avec des équipes qui sont des équipes interlaboratoires. Je crois que un des sujets qui peut ici nous réunir, c'est un parmi d'autres, mais qui peut vraiment intégrer de la transversalité, c'est cette thématique des patrimoines autour, encore une fois, et de toutes ces implications sur les différents secteurs, parce que ça concerne la gastronomie, ça concerne les châteaux, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, ça concerne l'environnement, je l'ai dit, et donc ça nous concerne tous, à la fois en termes d'activité scientifique, mais aussi en tant que citoyen. Voilà, merci beaucoup.
Bien, merci. Vous faites rapidement, ça ce sont des abertures. Presto relembrar que ce colloquio è la quinta edizione dos colloquios organizados pela ANPUR e pela Apero Internacional, la quinta edizione dos diálogos que foram anteriormente diálogos franco-brasileiros e que já são francófonos e lusófonos. É o nosso desejo é alargar os diálogos a todo o mundo lusófono e a todo o mundo francófono. Bom, eu dizia simplesmente que é a 5ª edição de diálogos, que à l'origine était des dialogues franco-brésiliens, puisqu'il s'agissait d'échanges entre des instituts français et des instituts brésiliens en urbanisme, et que nous avons eu la volonté, les organisations ont eu la volonté d'élargir ces échanges à l'ensemble du monde francophone et à l'ensemble du monde lusophone. Et je crois que cette réunion d'aujourd'hui montre que la pertinence de ce choix stratégique. On peut passer à la diapositive suivante, pardon. Como podem ver, temos nesse encontro uma evidência do que a nossa estratégia de alargamento foi pertinente, porque temos mais de 130 autores que têm participado nas contribuições, nas comunicações, provenientes de 13 países. Donc, la pertinence que j'évoquais à l'instant est concrétisée par la participation de 130 auteurs aux différentes communications en provenance de 13 pays. Ce que je regrette, je le dis en passant, c'est que certaines personnes de certains pays n'ont pas pu obtenir de visa de la part des autorités françaises et donc ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Donc il faudra excuser leur absence. Il ne dépend évidemment pas d'eux. Diapositive suivante. Ah ben, des choses qui sont passées dans mon PowerPoint. Bon. Voilà, sont aux 13 pays. Nos volets sont utiles. Nous pouvons voir que nous avons une diversité bastante importante des origines. Donc, une grande diversité d'origine, comme je le disais à l'instant. On passe à la diapositive suivante. Mon diaporama est complètement chamboulé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce colloque, il a été organisé effectivement par Polytech, et le département aménagement environnement, et par CITER, l'UMR CITER, avec l'appui de l'Université de Tours et du CNRS, et puis l'appui, effectivement, ou le partenariat de nombreuses institutions, la région, on en a parlé tout à l'heure, la ville de Tours, la ville de Saint-Pierre-des-Corps, Tours Métropole, l'Ancourt, l'Apéro, bien sûr, l'ADEME qu'on va entendre tout à l'heure, j'ai la Cépente, le château de Villandry qui nous accueillera, j'en dirai un mot tout à l'heure, le château de Villandry, et qui ai-je oublié, l'UNESCO à travers la chaire UNESCO, voilà, la chaire UNESCO, c'est pas ça. Bon, c'est Mathias qui la représente ici. Diapositive suivante. Je voudrais illustrer simplement notre problématique par quelques photos prises de manière un peu aléatoire. Je vais simplement illustrer la problématique de notre colloque avec des photographies. Notre colloque abrange beaucoup de questions. Par exemple, la question de l'alargamento urbano, la première photographie. La question de l'abondance climatique, par exemple, avec la photographie de Montréal, on se voit bien, mais on peut se voir que nous avons une photographie de la direita, nous avons deux bairros, un végétalisé, posso dizer, et un autre non végétalisé. La différence de température entre les deux bairros est de 6 graus. Donc je disais que nous avons une première photo qui illustre l'étalement urbain, une autre qui illustre les impacts du changement climatique, par exemple une photo de Montréal hein, dans le bas à droite, où nous avons deux quartiers contigus avec une différence de température moyenne de 6 degrés. L'un des quartiers, on le voit en bas de la photo, est végétalisé, l'autre ne l'est pas. La question dos parques naturels, das zonas naturais dentro da cidade, com a terceira fotografia. A question dos riscos, também, la question des risques, la question des risques naturels avec le terremoto, avec le tremblement de terre, question de l'intégration donc de la nature avec les parcs. On passe à la diapositive suivante. Quelques autres photo, una fotografia d'un conjunto habitacional de la città di Vienne, un ensemble de logements sociaux à Vienne, qui intègre parfaitement la nature, très connu, hein, le projet Hundertwasser. Una altra fotografia, che è anche una fotografia di Montréal, con un programma molto importante di vegetalizzazione della città, un programma canopé. Non so come canopé si dice in portoghese, forse non dico con certezza. Donc un programme de végétalisation de la ville de Montréal avec le programme Canopé. La terza fotografia de direita è anche una fotografia della città di Vienne con fachadas végétalisate. Un immeuble à Vienne avec des façades végétalisées. Et anche un margine du Rio Garonne en Bordeaux. Con un programma di végétalisation. La quatrième photo, c'est une photo de Bordeaux avec l'aménagement végétalisé des berges, enfin des rives de la Garonne. Diapo suivante. Toute cette problématique va nous être, introduite par deux interventions que nous allons entendre après la pause. Tout à l'heure. La première est celle de Lise Bourdeau-Lepage, donc, qui est parmi nous, et je m'en réjouis très vivement. Je la remercie d'être là. Lise Bourdeau-Lepage, donc, qui a publié récemment un livre collectif qui s'intitule Nature en ville, désir et controverse. Et d'autre part, je m'en réjouis tout autant, la participation de Madame Sarah Marquet, du service Organisation urbaine de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a été à l'origine d'un ouvrage qui s'intitule « Aménager avec la nature en ville ». On va introduire ce débat con deux palestras, une de la signora Lise, professora Lise Bourdeau-Lepage, qui publicó uns meses, qui publicó un livre « Natureza na cidade ». E anche la palestra della signora Sarah Marquet, dell'Agenzia dell'Ambiente e del controllo dell'energia, posso dire, che pubblicò anche un libro Planeggiare o Ordinare con la natura a cidade. Na cidade. Bon, et dernière diapositive, quelques informations pratiques. Par entrare no edifício do Departamento Aménagement et Environnement, onde que vão ocorrer os próximos trabalhos nessa tarde, e onde que vamos almoçar também, tem de utilizar o código 3737. Probabilmente la porta sarà aperta, ma è più sicuro rimbrare questo codice. Oggi a tarde, alle 6:30, abbiamo un incontro organizzato nella Camera Municipale. Donc nous avons une rencontre à l'hôtel de ville ce soir à 18h30. Nous serons reçus par la municipalité de Tours